Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour. C'est déjà le dernier cours de cette année, ça passe vite. Mais comme je suis un peu en retard, je dois un peu résumer tout ce que j'aurais voulu vous dire. Donc, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, on va s'occuper des chapitres 10 à 24, ça fait pas mal. Mais vous allez voir ça. Ça va bien se passer. Donc, je peux vous rappeler pour le chapitre 9 que nous avons vu la semaine dernière la destruction, la conquête de Haï, hein, le sort du roi. Je vous rappelle que Dan Inoké nous a parlé du chapitre 9, c'est-à-dire la ruse des Gabaonites qui se sont en effet passés pour un peuple lointain pour que Gabaon puisse être intégré dans le territoire, ce qui est fait. Et donc, ce chapitre est présupposé, en effet, par le chapitre 10, qui, en effet, va parler d'une coalition des rois amorites contre Gabaon. Et les Gabaonites qui vont en effet faire appel à Josué. Donc là, on a quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, la conquête était toujours en fait partie des Israélites sous la conduite de Josué. Et là, maintenant, les conflits militaires sortent en effet des habitants du pays. Et pour la première fois, en effet, on apprend en fait qu'il y a un roi à Jérusalem. C'est la première mention de Jérusalem que nous avons ici dans ce chapitre. Et le roi, il s'appelle Adoni-Tzedek, qui en fait va rassembler toute une coalition. Vous avez les textes derrière vous. Et cette coalition, en effet, va amener les habitants de Gabaon de demander à Josué d'intervenir pour eux. Donc, le roi, en effet, de Jérusalem est appelé Adoni-Tzedek, ce qui est intéressant puisque ça veut dire, en effet, Tzedek, la justice ou la personnification de la justice est mon Seigneur. Et nous avons d'autres personnages qui sont en lien avec Jérusalem et qui comportent également l'élément Tzedek dans leur nom, comme Melchisédek, vous vous souvenez, Melchisédek dans l'histoire d'Abraham, qui est appelé le roi prêtre de Chalem, ce qui est certainement évidemment une allusion à Jérusalem, et aussi Tzadok, le prêtre qui est donc à Jérusalem. Donc il y a peut-être là encore un souvenir qu'il y avait à Jérusalem une vénération d'une divinité qui est une sorte de personnification de la justice du nom de Tzedek. Contrairement à 2 Samuel 5, quand David prend Jérusalem, il n'est pas question d'un roi. Donc soit c'est en effet un souvenir lointain des roitelets qui sont connus par la correspondance d'Amarna en Égypte, ou alors c'est une construction de l'auteur du chapitre 10. Donc les autres rois qui donc sont présentés comme des Amorites n'ont pas de nom historique. Donc on peut faire des spéculations étymologiques, c'est pas toujours très convaincant, mais par exemple Hoam, ça pourrait être le malheur, Piréam, l'âne sauvage, Yafia, un bel endroit. Mais en fait, ce qui est important, c'est en effet que le texte insiste sur cette grande coalition et présente Gabaon comme une grande ville, ce qui archéologiquement correspond en effet à une citation soit du tout début du premier millénaire ou, ce qui probablement est plus logique pour la rédaction de notre texte, au 7e, 6e siècle où en effet archéologiquement on peut montrer que c'est une ville assez importante. Donc, la guerre qui va être menée par Josué, vous connaissez maintenant un peu la manière dont les auteurs le présentent. Il y a toujours au début cet oracle de salut, ne crains pas, donc, comme dans les textes assyriens, chez les livres dans ta main, aucun d'entre eux ne tiendra avant toi. Puis Josué arrive à l'improviste, il met les ennemis en déroute, mais Yahvé intervient directement. Il intervient directement depuis le ciel et combat pour Israël. Donc, il fait tomber des grands grêlons, des pierres. Et donc, le mot la racine Haman, maître en déroute, bah, vous l'avez pour la première fois dans la Bible, dans l'histoire en fait, de la traversée de la mer, où c'est Yahvé qui met en déroute l'armée des Égyptiens. Donc il y a peut-être ici un lien qui est voulu par l'auteur de ce texte, qui renvoie en effet à l'histoire de l'Exode. Mais la manière dont Yahvé met en déroute les ennemis, il y a un lien très très clair avec la propagande assyrienne. Donc le texte hébreu, dire le texte biblique dit, tandis qu'ils fouillaient devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux des grosses pierres jusqu'à Azekah. Ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par les pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tournèrent par l'épée. Et vous avez un texte assyrien. On appelle ça les lettres aux dieux, donc les rois assyriens, pour remercier d'avoir emporté une victoire, font rédiger par leurs scribes des lettres de remerciement aux différentes divinités. Et là, nous avons une lettre de Sargon, Sargon II, à Assur. Le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Hadad poussa un grand cri contre eux. À l'aide d'une averse et des pierres du ciel, il annihila ceux qui restaient. Donc c'est tout à fait la même intervention et on peut assez facilement imaginer que l'auteur de ce texte, ce passage, s'est directement inspiré des textes assyriens. Donc ça confirme ce que je vous ai déjà dit, que le livre de Josué, dans sa première version, est en effet très proche de ces textes de propagande militaire assyrien. Donc finalement, le texte aura pu se terminer là, parce qu'il a déjà remporté la victoire. Mais tout d'un coup, on découvre autre chose, très intriguant. Alors Josué parla à Yahvé en ce jour où Yahvé avait livré les Amorites aux fils d'Israël, donc tout est déjà fait, mais « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre du juste ? Donc ça vient un peu tard, parce qu'en fait la victoire est déjà remportée. Et donc là, il y a une autre tradition qui a été rajoutée à ce récit de victoire, où en effet, Josué ne s'adresse pas à Yahvé, mais au soleil et à la lune. Si vous regardez le verset 12, vous avez « Josué parla à Yahvé en ce jour ». Mais finalement, il ne parle pas à Yahvé, il parle bien au soleil et à la lune. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ben, ça nous dit qu'après, quelqu'un a révisé le texte, disons « il ne va pas parler au soleil et à la lune ». Donc il y a une relecture monothéiste dont je vous parlerai tout à l'heure, mais l'idée dans le texte ancien, c'est que Josué commande au soleil et à la lune. Et ça se trouve dans le livre du juste. Alors il existait peut-être, en effet, un livre du juste, Sefer Hayasa, qui nous est connu que par des citations, c'est-à-dire nous l'avons ici mentionné, et nous l'avons mentionné encore une fois en 2 Samuel 1, lorsque David entame son élégie, sa lamentation sur Saül et David, on dit aussi cela se trouve dans le livre du juste. Et peut-être une troisième fois, dans un texte de la Septante, en Haravit, et ce texte très curieux, où le soleil a dit que Yahvé veut habiter dans l'obscurité, le texte grec étant très très différent. Et dans le texte massorétique, on ne mentionne aucun livre. Par contre, dans le texte de la Septante, on a « en bibliothèse rhodes », donc dans le livre du chant. Mais en hébreu, « shir » et « yachar », c'est très proche. Peut-être c'est la même chose que l'auteur, disons le traducteur grec, avait peut-être un texte hébreu qui avait Shir et Yachar et il avait compris ça comme Shir. C'est possible, mais c'est peut-être en effet un texte qui faisait partie de cette collection peut-être des petits morceaux poétiques. Malheureusement, bah, nous n'avons pas vraiment d'autres textes qu'on peut attribuer à ce livre. Donc voilà, ça c'est encore quelqu'un qui veut travailler là-dessus, reconstruire le livre du juste, mais je ne sais pas si on peut aller très très loin, mais bon, on peut toujours essayer. Mais ce qui est intéressant ici, pourquoi, en effet, Josué va parler au soleil et à la lune. Ben, il faut vous rappeler que le soleil et la lune, en effet, sont des divinités très importantes dans l'Empire assyrien, et qui notamment sont populaires dans la partie ouest de l'Empire. Et Sin, par exemple, appelé le dieu de la lune, Sin, est appelé maître de l'ouest. Et le dieu du soleil, c'est Shamash, gardien de la justice. Et ce que veut dire le texte, en effet, c'est que Josué s'adresse à ces divinités pour qu'ils s'arrêtent. Pourquoi elles doivent s'arrêter ? Ben, elles ne doivent pas précéder, en effet, leur armée. Parce que, en effet, vous avez des textes là, c'est peut-être un dieu du soleil qui précède en fait l'armée assyrienne et qui leur assure la victoire. Et Josué dit non, vous restez à votre place. Et c'est ainsi, en effet, que Israël va remporter la victoire. C'est pour cela, en effet, c'est un texte encore polythéiste d'une certaine manière, puisque Josué accepte que c'est des divinités, mais en même temps, le texte dit que Josué a tellement de pouvoir que ces divinités lui obéissent. Et après, évidemment, on va faire une relecture, mais avant cette relecture, que je vais vous montrer dans un instant, il y a des gens qui ont pensé que c'est un événement qu'on peut dater au jour près. Ah oui, il y a des grands scientifiques... Alors, attendez. Hop. Des grands scientifiques... Voilà, des grands scientifiques de Cambridge, de la Royal Astronomical Society, ont trouvé en effet que cet événement qui est décrit dans le livre de Josué serait une éclipse partielle du soleil le 30 octobre 1207. Ah, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. 1207, où en effet, il y avait une sorte d'éclipse annulaire qui aurait provoqué ce phénomène qui sera entré en effet dans les mémoires du peuple. Évidemment, si vous regardez le texte, ça ne ressemble pas tellement à une éclipse solaire, donc il faut quand même avoir beaucoup de fantaisie. Mais ça fait partie de ces lectures un peu rationalisant des textes bibliques ou ce que les textes en fait présentent comme un miracle, comme l'irruption de l'irrationnel, ben, les scientifiques ont du mal à accepter ça et ils cherchent en effet de rationaliser ça. Donc du coup, on aura une éclipse du soleil et on pourrait dater même ce texte. Évidemment, les biblistes vont être quand même plus que sceptiques de dater un texte à 1207 avant notre ère. Voilà, donc nous avons plutôt un texte plus ancien, plus récent, mais qui a été relu ensuite, parce que, je vous ai dit dans le texte premier, l'idée c'est que Josué en fait commande en fait au soleil et à la lune, et ensuite on a néanmoins le soleil s'immobilisa au milieu des cieux, donc après qu'on a cité le livre du juste, et ni avant ni après il y a eu de jour comparable à ce jour où Yahvé obéit à un homme. Donc, est-ce que vous comprenez la relecture monothéiste ? Ça présuppose évidemment un texte comme Genèse 1, où Yahvé a créé le soleil et la lune, et ce n'est plus des divinités, c'est des créatures de Yahvé. Et donc, du coup, le fait que Josué s'adresse au soleil et à la lune, on va maintenant l'expliquer par le fait que, finalement, il s'est adressé à Yahvé, comme on le dit déjà au début, et c'est Yahvé finalement qui les a arrêtés. Et la chose évidemment remarquable, et c'est la seule fois qu'on a cette idée dans la Bible, c'est Yahvé obéit à un homme. Donc c'est ainsi qu'on arrive en effet à expliquer que ce miracle que Josué produit est un miracle en effet qui est maintenant, selon le texte tel que nous l'avons, et en effet l'œuvre de Yahvé, mais en faisant ça, Yahvé, en effet, suit l'ordre d'un homme, à savoir Josué. Donc ça fait évidemment partie aussi de la mise en relief de Josué qui devient de plus en plus important. Donc, après, l'histoire continue encore. Donc, on aura pu se dire, bon, maintenant, tout est terminé. Mais maintenant, on va encore parler d'une grotte. D'une grotte à Makeda, où les rois s'étaient enfuis. Et, en effet, on va bloquer cette grotte. Josué reste apparemment comme gardien devant cette grotte. Il dit aux gens, en fait, quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, toujours comme d'habitude. Yahvé, votre Dieu, vous les a livrés dans vos mains. Et à la fin, le peuple revient. Et c'est ensuite que les rois vont en effet remporter un sort pas très, très sympathique. Makeda est probablement identifié avec Kirbet El-Kom, un endroit important puisqu'on a trouvé dans un cimetière des inscriptions. On a Yahvé et Asherah, mais ça c'est une autre histoire. Donc Makeda, sans doute dans la région de Kirbet Bet Makdum, qui est aussi identifié avec Makeda par Euseb et qui est juste à côté. Donc c'est un texte, disons, c'est un endroit qu'on peut assez facilement identifier. Donc, il y a le sort de ces rois dans la grotte de Makeda, où en effet, il est dit d'abord au commandant de l'armée, posez vos pieds sur le cou de ces rois, ne craignez pas et ne vous lassez pas battre, soyez forts et courageux, car c'est ainsi que Yahvé traitera tous les ennemis que vous aurez à combattre. Et donc après, évidemment, c'est la mise à mort des rois qui sont en effet pendus à des arbres et retirés avant le coucher du soleil, ce qui vous rappelle ce que nous avons déjà vu avec le roi de Haï qui a en effet subi le même sort. Là aussi, nous avons assez clairement un lien avec des textes assyriens. Dans la campagne du roi Assurbanipal contre les Élamites, on a quelque chose de similaire. Le roi, avec son fils, s'était caché, non pas dans une grotte, mais dans un bois. Donc Théouman, roi d'Élam, qui avait été blessé, et son fils aîné, qu'il avait pris par la main, s'enfuirent pour sauver leur vie et se cachèrent dans un bois avec l'aide d'Assur et d'Ishtar, chez les tués et leur couper la tête. Donc là, les têtes sont coupées, alors que dans le récit biblique, ils vont être pendus. Mais c'est le même scénario. On attend à la fin pour raconter le sort du roi ou des rois, et c'est similaire dans le texte biblique. Voilà, alors poser les pieds sur la nuque de l'ennemi, c'est évidemment un geste de victoire, d'humiliation, que vous avez bien attesté dont à la fois par l'écrit et par l'image, déjà dans Enuma Elish, le grand récit de création mésopotamien, avant que Marduk va vaincre Tiamat, on va lui dire « Réjouis-toi et jubile, car sur la nuque de Tiamat, tu poseras bientôt le pied. Hein » Dans le psaume 110, siège à ma droite, dit Dieu au roi, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Donc, même idée. Vous avez ici deux représentations. C'est pas tout à fait la nuque, mais c'est quand même l'idée que, voilà, on piétine, en fait, l'ennemi, comme ici et ici. Donc, c'est un geste qui est normalement fait par les dieux ou les rois. Et ici, accompli en fait par l'ensemble des chefs de l'armée. Comme la fin de Josué 8, le roi d'Haï, ici, les cinq rois sont mis à mort, leur pendaison à des arbres et leur enterrement dans cette grotte est donc relaté. Alors là, évidemment, il y a aussi sans doute un intérêt étiologique, à savoir l'explication de l'existence d'une grotte à Makeda, puisque le récit va se terminer jusqu'à ce jour. Donc, en fait, on s'adresse à des gens qui connaissent une grotte à Makeda, qui peut être en effet un peu visible, peut-être aussi avec des pierres qui bloquent l'entrée. Et puis, évidemment, quand on voit ça, on imagine soit des tombeaux ou des monuments importants. Et ici, c'est une manière d'expliquer, en effet, cette grotte. Après, et je vais aller assez vite, après, on va raconter toute la conquête de la Chefela. Donc, je vous ai fait beaucoup de couleurs pour que vous voyez, c'est fait toujours de la même manière. Donc, on revient encore une fois sur Makeda, en disant, ce jour-là, Josué prit Makeda et le passa, ainsi que son roi, au tranchant de l'épée. C'est un peu bizarre, non ? Puisque tout à l'heure, on nous a expliqué qu'ils étaient pendus sur un bois. Donc là, ils passent par les tranchants de l'épée. Il y a peut-être deux traditions différentes sur ce qui arrive au roi de Makeda. Là, il est tout seul. Alors, dans le reste, il était avec d'autres. Hein. Et donc, ça introduit en fait une sorte de, oui, presque une sorte de poème, parce que c'est assez rythmé en hébreu, où vous avez toujours un peu les mêmes éléments. Donc, Josué passa d'un endroit à l'autre. Donc, vous voyez, il passa de Makeda à Livna. Il passa de Livna à Lachish, de Lachish à Eglon, tout ce qui est en rouge. Hein. Ensuite, il fait la guerre à cette ville, il lui fait la guerre à Livna, etc. Yahvé lui livre la ville. Josué et Israël passent au tranchant de l'épée toutes les personnes qui s'y trouvent. On voit au Kherem la ville ou le roi. Il n'y a pas de survivants. Et il traite le roi comme il avait traité le roi de Zed, de l'autre ville. Donc il traite à Devir son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Livna. Donc là, en effet, on ne s'intéresse plus tellement à des narrations. Là, on s'intéresse en fait à des énumérations. Hein, à des énumérations des villes qui se trouvent tous plus ou moins dans la Chefela ou dans les alentours. Et là, je pense que c'est une indication assez importante, en effet, pour pouvoir dater cette liste, puisque les villes conquises se situent pour la plupart, comme je vous ai dit, dans cette Chefela, qui, en effet, a été pris à Juda en 701. Donc en 701, vous vous souvenez, les Assyriens avaient envahi Juda, avaient détruit Lachish, avaient mis le siège devant Jérusalem et avaient donné une partie du royaume de Juda aux cités philistins. Donc Juda a été en effet réduit d'une manière assez dramatique. Mais on voit aussi que la Chefela, dans la deuxième moitié du 7e siècle, revient à Juda, comme d'ailleurs aussi Benjamin, le territoire de Benjamin. Hein? Donc la question, c'est sous quel roi ça s'est passé ? Est-ce que c'est déjà sous Manassé, qui est détesté par les auteurs bibliques, mais qui apparemment est un roi assez, assez diplomate et assez, assez intelligent pour négocier avec les Assyriens, puisqu'il a quand même pu régner une cinquantaine d'années, ce qui est assez remarquable pour un roi à cette époque-là. Hein ? Et donc c'est soit Manassé qui a récupéré ces territoires, ou alors ce sera Josué qui aura profité d'un vacuum de pouvoir, un affaiblissement des Assyriens pour récupérer la Chefela et le territoire de Benjamin. Et c'est justement là où se passent en fait les récits de conquête, mais aussi cette liste que vous avez ici. Donc c'est peut-être en effet le premier texte au niveau de ces listes qui va revendiquer en fait la possession de Juda sur la Chefela et sur Benjamin. D'ailleurs, sans Benjamin et Chefela, Juda ne peut pas exister parce que c'est là où vous trouvez tout le blé, où vous avez toute l'agriculture, et donc couper ces territoires est en effet condamner le petit pays de Juda. Donc on a pu s'imaginer que le premier livre de Josué s'était terminé avec ce texte-là. Donc ça veut dire que dans le premier livre de Josué, qu'est-ce que c'est la conquête ? C'est en fait la légitimation du royaume de Juda à l'époque du roi Josias. Juda avec Benjamin et avec évidemment Chefela, la lignée qui en fait fertile, les collines fertiles qui font la frontière avec les villes philistines. Et il est possible qu'à l'origine, c'était la conclusion, la fin du chapitre 10. Josué le bâtit depuis Kadesh Barnea jusqu'à Gabaon, et il s'empara de tous ses rois et de leur pays en une seule fois, car Yahvé, le Dieu d'Israël, combattit pour Israël. Donc, on peut imaginer que le premier rouleau de Josué s'était terminé avec ce chapitre-là. Et donc, dans ce livre-là, quand on parle de Kol Israël, de tout Israël, c'est tout Israël, c'est en effet Juda et Benjamin, et pas du tout le Nord. L'élargissement vers le Nord va venir, en effet, plus tard. Après, on a ajouté Gaza, qui est une ville philistine, pour faire un lien avec la mer, et peut-être aussi Goshen, pour faire un lien avec l'histoire de l'Exode. Mais il y a aussi une ville, apparemment, de Goshen, si on croit Josué 15, qui se trouve dans le Negev. De toute manière, même avec ces ajouts, la perspective, en fait, c'est qu'Israël va du Negev jusqu'à Gabaon, pas plus loin. Donc ça, c'est la première vision du livre de Josué qui était élargie ensuite vers le nord. Mais peut-être Axel Knauf et d'autres ont raison de se dire, voilà, premier rouleau, c'était les récits de conquête, la traversée, la conquête de Jéricho, de Haï, les listes, jusqu'à là. Après, le chapitre suivant, on arrive déjà dans le nord, et dans la ville emblématique du nord, qui est Hatsor. Et si vous lisez ce chapitre, je n'ai pas le temps de vous le lire maintenant, mais vous avez des Bibles à la maison, vous pouvez l'ouvrir, donc vous lisez le chapitre 11, vous avez tout ce récit, en effet, de la conquête de Hatsor, qui, en effet, est décrit d'une manière assez similaire de ce qu'on trouve au chapitre 10. Donc, le roi de Hatsor fait également coalition avec des rois du Nord. Yahvé, de nouveau, va dire à Josué, ne crains pas, je vais te livrer tout le monde. Et évidemment, c'est exactement ce qui se passe. Josué s'empara de Hatsor, il frappa son roi de l'épée. Hatsor était autrefois, ça c'est intéressant, Hatsor c'était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait que c'était la ville la plus importante, en effet, dans la région. Et donc, Josué fait exactement comme Yahvé lui avait commandé, plus précisément, comme Yahvé avait commandé à Moïse et comme Moïse avait commandé à Josué. Donc, on va élargir, en fait, la conquête au nord en prenant vraiment la ville la plus emblématique que vous pouvez imaginer. Si vous le visitez aujourd'hui, vous avez cette aile immense qui vous montre encore l'importance de cette ville. Et donc, vous pouvez visiter, il y a constamment, bien qu'actuellement c'est un peu interrompu, il y a constamment des fouilles qui continuent sur cette aile qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Hatsor, en effet, c'est au deuxième millénaire, avec environ 80 hectares, la plus grande ville du Levant. Donc c'est pour cela qu'on l'a choisi en fait au chapitre 11. On le connaît par des textes égyptiens, mais on le connaît aussi, cette ville, par les textes de Marie, qui montrent clairement des échanges commerciaux et diplomatiques. On apprend que, voilà, un des grands, hauts fonctionnaires de cette maison de Hatsor, de la maison royale de Hatsor, s'appelait Ibli Hadad, ce qui montre qu'on vénérait le dieu Hadad. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de biens qui sont échangés, à la fois avec l'Égypte, mais aussi avec Marie. Et cette ville, en fait, va perdre un peu d'importance au XVIe siècle, va être reconstruite avec des temples, des palais. Il y a plusieurs temples, il y a des restes d'un palais. Il y a plein de choses, donc je ne peux pas vous faire un cours sur Hatsor, mais on pourra en parler pendant une heure sans problème. Donc c'était une ville vraiment importante. Et à la fin de l'âge de bronze, il y a une fin violente de cette ville, que certains avaient pris comme preuve de la conquête. Yadin, grand archéologue israélien, avait fouillé Hatzor assez vite après la fondation de l'État d'Israël pour prouver, en effet, l'historicité de la conquête. Et il est vrai que vous avez des traces de destruction, mais personne ne sait de qui. Donc Josué n'a pas laissé un petit mot « nous étions là ». Ça aurait facilité les choses, mais malheureusement, on n'a pas ça. Donc c'est vrai qu'il y a des traces de destruction, donc on ne peut pas totalement exclure qu'il y a un lien dans le mémoire culturel avec cela, mais on peut aussi imaginer que ça fait allusion à une autre grande destruction de la ville, puisque après une sorte de reconstruction de la ville pendant l'âge du fer, en 733, Tiglath-Pileser va détruire la ville et déporter la population. Et après, il n'y a presque plus rien à Hatzor. Disons, on n'a rien trouvé encore, peut-être on va en trouver. Donc, la destruction de Hatzor, ça peut être aussi en lien avec la destruction de la ville par Tiglath-Pileser, qu'on aurait ensuite attribué, évidemment, à Josué et aux Israélites. Donc, voilà, c'est soit il y a un souvenir très ancien, soit on sait que la ville a été détruite récemment. On dit, bah oui, c'était nous. Bon, difficile à décider, mais ce n'est pas par hasard qu'on a choisi Hatzor. Et donc, vous voyez comment on va monter de plus en plus vers le nord. Si vous prenez ces trois cartes, donc vous avez d'abord, ça c'est Josué 6 à 10, où vous avez simplement le Shephela, le sud. Après, vous avez Josué 6 à 11, surtout le chapitre 11, où on va jusqu'à Hatzor. Et après, maintenant, vous allez avoir une deuxième liste qui va garder un peu la même frontière, mais qui va rajouter plein d'autres villes. Beaucoup d'autres villes. On a cette liste ici. Je ne vais pas vous lire tous ces noms. C'est très intéressant pour ceux qui font l'histoire textuelle parce que vous avez en fait des variantes assez importantes. Vous le savez déjà qu'il y a des variantes importantes entre le texte massorétique et le texte grec, le texte de la Septante, et pour ces noms également. Certains, on peut facilement les identifier, d'autres non. Certains sont mentionnés dans des chapitres antérieurs du livre de Josué, d'autres apparaissent pour la première fois. Donc on va en effet, on va peupler un peu plus toutes les terres. Et la question, c'est pourquoi on arrive dans le texte massorétique à 30, 31 rois et dans le texte de la Septante à 29 rois. Est-ce que ça a une signification? 31, 29. Il y a des exégètes qui disent c'est probablement 30. Donc, le massorétique a pris un de trop et la Septante l'a manqué un. Bon, tout est possible. Mais il y a quand même là une observation assez intéressante qui vient d'un collègue de Fribourg en Suisse, Innocent Imbaza, qui a écrit un article intéressant. Josué 12, 9 à 24, a-t-il été inspiré par les inscriptions perses achéménides? Et je crois qu'il a des bonnes raisons à suggérer ça, puisqu'il dit en effet que dans de nombreuses inscriptions perses, mais aussi dans des reliefs de tombeaux, on voit souvent le roi perse face à Ahura-Mazda, et sous ses pieds, il y a toute une série de représentants des peuples qui soutiennent le roi, l'empire, ou parfois le trône. Et on le voit par exemple dans cette magnifique nécropole de Naqsh Ezrostam. Donc là, vous avez trois tombeaux. Là, vous ne voyez peut-être pas encore, je vais vous montrer ça en grand. Donc vous avez trois rois ici. On voit le roi, et sous les rois, vous avez en fait des représentants des différents peuples. Et si vous regardez ça plus en détail, si vous prenez le tombeau de Xerxès, alors est-ce que vous les comptez? Les peuples ici, vous en avez 30. Et puis là, vous avez 28 ou 29, ça dépend. Mais il y a quand même, on est proche de ces chiffres. Donc c'est peut-être quand même quelque chose qui est inspiré de cela. Et puis ça peut se préciser encore par un paragraphe de Hérodote qui parle ou qui donne une liste de ce qu'il appelle 29 corps d'armée que Xerxès aurait aligné pour attaquer les Grecs lors de la guerre médique. Donc 29, comme dans la Septante. Donc on pourrait quand même peut-être suivre Imbaza, disons que ces chiffres sont peut-être quand même inspirés de cette pensée perse, parce que l'idée c'est que la Perse, avec les 30 peuples, ça fait 31, et donc il y a la Perse et tous les peuples qui sont soumis à la Perse. Donc on aura peut-être la même idée dans le texte massorétique, alors que dans le texte là, Septante, on aura peut-être un lien avec ces 29 corps d'armée qui regroupent plusieurs peuples, mais qui en effet sont 29. Donc aussi, pourquoi 29 ? Là, on aura un lien intéressant. Voilà, passons maintenant à la deuxième partie du livre qui, en effet, est moins souvent discutée parce que c'est peut-être moins intéressant parce qu'il y a surtout des listes, listes et listes et des listes. Et ensuite, deux grands discours d'adieu de Josué avec une autre histoire sur laquelle je reviendrai tout de suite. Alors, si vous regardez cette deuxième partie, elle est doublement encadrée. Elle est encadrée par les chapitres 13 et 22 qui concernent en fait les tribus de l'autre côté du Jourdain, les tribus transjordaniennes. Vous vous souvenez qu'il y avait Éphraïm, Gad et la moitié de Manassé qui avaient dû traverser avec les autres tribus le Jourdain, mais qui sont en effet installés de l'autre côté du Jourdain. C'était déjà toute une... un arrangement théologique pour dire le Jourdain, c'est à la fois la frontière. Mais on sait aussi qu'il y a des tribus israélites qui habitent de l'autre côté. Et donc, pour faire du Jourdain la frontière théologique de tout le monde, ces tribus à qui Moïse avait déjà, en nombre 31, donné leur territoire, il faut qu'ils traversent. Et c'est seulement maintenant, tout à la fin, qu'ils peuvent revenir. Donc, on rappelle au chapitre 13 ce que Moïse avait fait en Transjordanie. Et puis, en 22, on a le retour. Et puis, les listes, en fait, qui répartissent les terres sont encadrées, en fait, par des terres qui sont données à des individus. D'abord, au chapitre 14, repris au chapitre 15, à Caleb. Vous vous souvenez, Caleb, c'était le compagnon de Josué, donc le seul des 12 espions qui avait, en effet, insisté sur le fait qu'il faut bien conquérir le pays, même si c'est compliqué. Et donc, c'est Caleb qui mentionne en 14. Et tout à la fin, vous avez Josué qui reçoit aussi un fief spécifique. Et au milieu, vous avez les autres tribus avec, ce qui est important aussi, un changement de localisation de Gilgal, on va passer à Silo. Le camp est à Gilgal et tout d'un coup, 18, on est à Silo. Et tout à la fin, donc, les discours d'adieu, la mort de Josué et d'Éléazar et aussi l'ensevelissement des ossements de Joseph. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça le plus rapidement possible. Ça commence au chapitre 14 avec la mention du prêtre Éléazar. Prêtre qui n'a jamais été mentionné jusqu'à maintenant dans l'histoire de Josué. Tout d'un coup, il y a Éléazar qui est là, fils d'Aaron. Mais d'où est-ce qu'il vient ? Où est-ce qu'il était avant ? Mais évidemment, on veut ici mettre Josué et Éléazar en parallèle avec Moïse et Aaron. Donc une sorte de division du pouvoir entre le gouverneur et l'aristocratie rurale d'une part, donc le pouvoir laïque, si on peut dire, et de l'autre côté, le grand prêtre et l'aristocratie sacerdotale, d'autre part, dans la province perse de Judée. Donc il n'y a plus d'État, il y a un Israël tribal, clanique, qui est représenté par un pouvoir laïque et un pouvoir sacerdotal. Et donc, comme je vous ai dit, ça commence en effet par la distribution du pays à Caleb, Caleb qui reçoit notamment Hébron et les alentours. Et ça, c'est important puisque En effet, à l'époque perse, Hébron ne se trouve plus à l'intérieur de la province Yéhoud, mais était à l'extérieur peuplé par des Édomites. Et Caleb, c'est un personnage qui est présenté comme un Kénizite, ou parfois en lien avec Kenaz, qui est en effet une tribu édomite. Et ce qu'on veut dire ici, dans ce texte, que Caleb est intégré, en effet, en Juda, bien que, évidemment, dans les frontières de l'époque perse, à l'extérieur. Mais c'est une manière, en effet, de revendiquer Hébron et d'accepter aussi le fait qu'à Hébron, il y a toujours un mélange de populations. Il y avait certainement des Judéens qui habitaient, il y a des tribus arabes, il y a des Édomites, donc il y avait toute une série de populations. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on va mettre Abraham à Hébron, puisque Abraham est à la fois l'ancêtre des tribus ismaélites et des tribus judéennes qui viennent via Isaac. Hein. Voilà, donc Hébron, on nous dit que ça s'appelait Kiryat Arba. Arba, aujourd'hui on dit c'est la ville des quatre, mais Arba existe aussi comme un nom propre, le nom du père ou de l'ancêtre d'Anak, qui a en effet trois fils à Hébron. Et les trois fils de Hébron, vous pouvez penser aux trois visiteurs que reçoit Abraham à Hébron. Là, ça, on a transformé sans doute ces trois fils de Hébron. Hein. Ensuite, en fait, on va passer au territoire de Juda et de la maison de Joseph, donc d'Éphraïm et Manassé. Donc, dans les chapitres 15 à 17, on va en fait se concentrer sur Juda et le nord. Hein. Le chapitre 15 va d'abord donner une liste des frontières, surtout de la frontière nord, mais vous allez voir, il y a une sorte de territoire vide, vague, qui est entre le nord et le sud, et correspond en fait à Benjamin. Le sud, ça va être Kadesh Barnea, et l'est et est, donc on va oublier les Philistins, donc ça va des deux mers, donc de la Méditerranée à la mer Morte. Ensuite, nous avons une liste très précise qui est très difficile à comprendre dans tous les détails, mais c'est certainement une liste qui n'est pas inventée par les auteurs de Josué. C'est une liste, en fait, des villes et des villages de Juda et qui date probablement de l'époque de Josué. C'est une liste administrative qu'on a sans doute retravaillée dans la suite, hein, mais le fait, par exemple, qu'on mentionne Hébron, ça montre que Hébron faisait encore partie de Juda, donc c'est plus ancien que l'époque perse. Et Engedi, en fait, Engedi n'existe pas avant la fin, donc l'oasis de Engedi n'existe pas avant la fin du 7e siècle. Donc on est en effet à l'époque de Josué. Jérusalem n'est pas mentionné, et donc à la fin on dit, quant aux Jébusites qui habitaient à Jérusalem, les fils de Juda ne purent les déposséder. Les Jébusites habite donc avec le fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ça veut dire que Jérusalem a toujours été une ville un peu cosmopolite, qui n'a jamais été judéen, ni non plus benjaminite, parce qu'on a la même remarque dans le livre de Juges, mais là, il n'est pas question de fils de Juda, il est question de fils de Benjamin, qui ne pouvait pas s'emparer, en effet, de Jérusalem, exactement la même expression, la même formulation, mais là, on suggère que c'est plutôt les Benjaminites qui auraient dû conquérir Jérusalem, alors que dans Josué, c'est en fait les Judéens qui auraient dû faire ça. Donc, en ce qui concerne le nord, donc, comme je vous ai dit, d'abord, on va parler que de la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, hein, comme on voulait montrer que le nord n'est pas plus grand que le sud, d'une certaine manière. Et le titre « Maison de Joseph » regroupe en fait Éphraïm, qui était d'abord une région dont on a fait une tribu, probablement aussi Juda. Juda était d'abord une région qu'on a transformée en tribu après coup. Et Donc, la question, c'est est-ce que ce nom « Maison de Joseph » pour regrouper les deux, est-ce que ça présuppose déjà l'histoire de Joseph ou est-ce que c'est un nom plus ancien dont l'histoire de Joseph s'est inspirée? C'est difficile de savoir. Et comme je vous ai déjà dit, donc vous avez une sorte de vide qui correspond en fait au territoire de Benjamin, mais qui en fait n'est discuté qu'au chapitre 18, au moment où on est à Silo, où on raconte la distribution à tous les autres pays. Mais il est possible que la liste des villes de Benjamin était à l'origine, à la suite du chapitre 15, donc même document de Josias qu'on a déplacé dans la suite. Alors après, au début du chapitre 18, tout d'un coup, on est à Silo. Donc on dit que toute la communauté des Israélites se rassembla à Silo. C'est là qu'ils installèrent la tente de la rencontre. Pourquoi ? Il n'y a aucune explication. Donc on est un peu étonné. Pourquoi Silo ? Et puis le pays leur était soumis. Certains ont même dit que c'est un lien avec Genèse 1 où Dieu dit « soumettez-vous la terre ». Mais je pense que c'est un peu trop tiré par les cheveux parce que la terre, c'est vraiment toute la terre en Genèse 1, donc je ne pense pas que c'est la même idée ici. C'était le pays promis. Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent à Silo ? Ça, je pense qu'il faut le voir un peu avec la suite de l'histoire. Parce que déjà, Silo est un sanctuaire important qu'on n'a malheureusement jamais trouvé. Donc c'est Kir Betselum, qui est à 15 km au nord de Bethel, qui certainement est un sanctuaire important, mais ce qu'on a trouvé sur le plan archéologique, c'est plutôt des bâtiments de stockage, mais dont on s'est dit que ce bâtiment de stockage, évidemment, sont probablement liés à l'économie d'un temple, ce qui est tout à fait possible. Alors les fondamentalistes disent, bah non, on ne trouve pas de temple parce que c'était le temps de la rencontre, donc ce n'était pas le temple. Mais je pense qu'il y a quand même des indications déjà qu'à Silo, il y avait un temple, puisque déjà en 1 Samuel 1 à 3, où on parle du jeune Samuel, c'est clairement un temple qui présupposait. Et Jérémie 7, dont je vous parle dans un instant, présuppose également un sanctuaire, un temple avec une destruction. Donc en fait, ce qui est très, très curieux, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec Silo. Donc, il y a des traces de destruction entre le 11e et le 10e siècle que Finkelstein avait considéré comme étant une destruction philistine. On n'a pas tellement d'indications, mais dans les fouilles plus récentes, même si les fouilleurs ne sont peut-être pas toujours les meilleurs archéologues, on voit quand même qu'il y a des occupations plus importantes encore du 8e et 17e siècle. Et ça, c'est très important, puisque, en effet, dans le livre de Jérémie, vous avez ces textes très curieux où Jérémie annonce la destruction du temple de Jérusalem et où il dit « Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo, où je fais habiter mon nom auparavant. » Donc là, on admet que Silo était le temple où Yahvé était présent avant le temple de Jérusalem. Et puis, il annonce donc la destruction de Jérusalem en disant « Je vais traiter cette maison, donc le temple de Jérusalem, sur lequel mon nom est appelé, comme j'ai traité Silo. » Donc ça veut dire en effet que au VIe siècle, on savait en fait que Silo a été détruite et l'auteur en fait de ce texte suggère qu'il y a une sorte de succession de sanctuaires et avant Jérusalem, Yahvé avait habité dans le nord, à Silo. C'est peut-être une des raisons pourquoi on a mis Silo ici, mais aussi pour préparer en fait le texte sur la destruction de Silo dans l'histoire de l'Arche, dans le livre de Samuel. Donc il y a peut-être une destruction plus récente, mais actuellement, archéologiquement, c'est très très compliqué d'être sûr. Donc, après avoir parlé des autres tribus qui se situent tous en Galilée, La Galilée ne faisait pas toujours partie du royaume du Nord, seulement à quelques époques, notamment sous Jéroboam II, aussi sous Akab, probablement. On peut y lire une sorte de propagande pour le peuplement de la Galilée, qui a bien marché, puisque la Galilée devient après un territoire important pour le judaïsme. Voilà, alors la répartition du pays va se conclure par le don d'un fief à Josué, comme Caleb avait ouvert la distribution, on recevra lui un fief, Josué va recevoir un autre fief à Timnatsera, où il va être enterré. Et ce Timnatsera est probablement dans la proximité d'un village palestinien de Kifl Hares, où se trouvent aujourd'hui, disons, dans la tradition juive et arabe, les tombeaux de Josué, et aussi de Caleb et du père de Josué. Donc là, vous avez le tombeau de Josué. Après, nous avons un récit très, très bizarre. Donc je vous ai dit qu'il y a les tribus transjordaniennes qui reviennent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Et là, ça ne va pas du tout. Parce qu'ils vont construire un hôtel de leur côté. Un hôtel en dehors de la Terre Sainte. Donc ils bâtirent un hôtel près du Jourdain, Al HaYarden, certains disent sur le Jourdain, mais ça ne fait pas tellement de sens, mais près du Jourdain. Hein, et du coup, ça crée un très grand conflit. Donc il y a toute une délégation qui est menée par Pinchas, donc là on passe au fils d'Éléazar, qui vont en effet interroger les habitants de la Transjordanie, en leur disant, mais vous avez fait des choses horribles, vous avez fait pire qu'à Baal Péor, donc où on a fait l'idolâtrie, donc c'est raconté dans le livre de Nombres, Nombres 25, vous avez fait pire que ce qu'a fait Akan, donc renvoie à Josué 7, et en fait, les tribus transjordaniennes vont dire, ah non, pas du tout, nous avons bâti cet autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants. Parce que l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'il se légitime d'une certaine manière en tant que vénérateur de Yahvé, en disant, en fait, nous avons construit un autel, mais pas pour y offrir des sacrifices. Si vous pensez un tout petit peu à l'histoire d'Abraham, c'est un peu pareil, parce qu'Abraham, quand il arrive entre Haï et Bethel, construit un autel, mais il y invoque le nom du Seigneur. On ne dit pas qu'il y offre des sacrifices. C'est peut-être un peu la même idée. Et cet autel est présenté comme étant en fait un modèle, une représentation, un modèle du vrai autel qui est de l'autre côté. Donc il y a un sanctuaire, c'est l'autre côté. Alors quel sanctuaire c'est? Peut-être Garizim, je ne sais pas. Et donc c'est un modèle, un tabnit. On ne sait pas exactement comment traduire. Et donc, cette réponse, en effet, va suffire pour, en effet, calmer tout le monde et pour dire, en effet, c'est possible si l'autel est un mémorial qui symbolise le fait que les tribus en dehors des frontières de la terre peuvent être également des vénérateurs de Yahvé. Donc ça pose en effet toute la question de la diaspora. Comment en diaspora on peut vénérer Yahvé? La Torah n'existe pas encore. À l'époque perse, elle est en train de se constituer, mais elle n'est pas encore partout. Alors donc, pour rendre un culte, il faut quand même un sanctuaire, un endroit. Et donc là, on trouve une sorte de compromis. Même si c'est peut-être un compromis littéraire, mais c'est peut-être pas si littéraire que ça. Parce que ça fait quand même penser très fortement à un autre cas qui est bien attesté. C'est le temple de Yahou en Éléphantine. Vous savez que les Judéens, peut-être aussi Israélites, qui étaient à Éléphantine, avaient un temple pour Yahou, Anat et Bethelachim. Donc, sorte de triade. Et ce temple a été détruit en fait en 410 par les Égyptiens, peut-être le clergé de Knoum, parce que le temple était juste, le temple de Yahvé n'est pas trop loin du temple du dieu Knoum. Et donc ils veulent reconstruire le temple, Et ce qui est intéressant, en fait, il s'adresse à la fois aux autorités de Samarie et aux autorités de Jérusalem. Donc ça montre déjà aussi que, en fait, c'est les centres cultuels de Samarie et Jérusalem sont acceptés par les habitants de Éléphantine. Et ils disent, en fait, pour qu'on construise donc à Éléphantine la forteresse, le temple comme il était construit auparavant. Oblation, l'encensement et holocauste. Donc il y a des offrandes végétaux et les holocaustes, donc des offrandes sanglantes. Et puis, quelle est la réponse ? La réponse qui vient à la fois donc, des deux autorités, de Jérusalem et de Samarie, ils vont dire, tu auras à dire en Égypte au sujet de la maison à autel du Dieu du ciel, intéressant aussi qu'il y avait appelé Dieu du ciel, comme les dieux perses, hein, de la construire à sa place, comme elle l'était auparavant, mais on y offrira oblation et encensement. Et on dit conformément à ce qui était fait auparavant. Mais si vous regardez les deux choses, vous voyez qu'on a oublié le Holocauste. On n'a pas oublié. On l'a supprimé. C'est-à-dire, l'idée, c'est que pas de sacrifices sanglants, des sacrifices d'ordre végétal, oui, mais pas des sacrifices sanglants en dehors des grands centres cultuels qui sont Jérusalem et qui sont la Samarie. Et le texte de Josué 22, ben, il va encore plus loin. Il ne dit pas de sacrifice du tout. Hein ? Mais on voit qu'il y a une discussion autour de ces sanctuaires en diaspora. Malheureusement, on ne savait pas très bien, donc il y a des gens qui pensent qu'il y avait aussi un temple Yahou à Babylone, mais on n'a pas beaucoup d'indications et donc on ne sait pas très bien comment, si vraiment il y avait un temple, comment ça s'est passé. Et je voudrais aussi vous rendre attentif encore lorsque... Lorsque les tribus transjordaniennes vont répondre, ils vont répondre en fait en disant, alors il faut que je retrouve ici, El Elohim Yahvé. Donc il y a une sorte de triade, El Elohim Yahvé. Et pourquoi il y a cette triade ? Souvent traduit par le Dieu des dieux Yahvé. Mais El Elohim et Yahvé, c'est aussi trois termes qui désigne le divin. Et si vous pensez un peu au document sacerdotal, vous vous souvenez qu'il y avait cette idée que Elohim, c'est le nom générique avec lequel tous les peuples parlent du Dieu. El, c'est El Shaddai, qui est le Dieu qui apparaît à toute la descendance d'Abraham. Et Yahvé, c'est le Dieu spécifique d'Israël. Mais que ces trois noms, en fait, désignent la même divinité. Et du coup, je pense qu'il faut plutôt laisser El Elohim Yahvé pour dire, en effet, on vénère Yahvé, mais c'est El et c'est Elohim aussi. Et donc, une sorte d'œcuménisme qui réunit différents peuples et habitants de la diaspora. Voilà, donc ce livre, en fait, de Josué va se conclure avec deux grands récits de discours d'adieu. Mais comme je vous ai dit, on a l'impression qu'il y a plusieurs conclusions du livre avant. Donc je vous ai montré le chapitre 10. Hein. On avait vu aussi, non on n'a pas vu, mais je vous le dis maintenant, en Josué 21, il y a aussi une conclusion. Yahvé donna à Israël tout le pays, Yahvé leur livre tous les ennemis. Là, il y a une conclusion que tout est fait, si vous lisez ces versets-là. Josué n'est pas mentionné. Mais évidemment, ça ne va pas. Donc après, on a rajouté, en effet, deux autres discours qui sont déjà préparés en Josué 13, au moment de la distribution. On dit déjà que Josué était vieux. Donc il était vieux pendant tout le temps qu'il distribue le pays. Et il est vieux à la fin, au chapitre 23. Mais au chapitre 24, il n'est plus vieux du tout. C'est un peu comme Moïse. Moïse, c'est pareil. En Deutéronome 31, Moïse dit « Ah, je suis trop vieux ». Et en Deutéronome 34, « Ah non, il est en pleine forme ». Donc ça veut dire qu'en effet, on a d'autres idées sur Josué, hein, bien que, comme Moïse, à la fin, on va raconter sa mort. Hein, c'est la même chose. Donc en Josué 23, c'est sans doute la première conclusion du livre qui introduit, qui contient toutes les listes de conquêtes. Et on va en effet dire dans le texte ancien que vous avez sur la gauche que tout est donné, tout est fait. Mais il faut faire attention, parce que si le peuple n'écoute pas la voix de Yahvé, ça va mal se terminer. Ça, c'est à la fin. Donc, vous allez être détruits loin de cette bonne terre que Yahvé, votre Dieu, vous a donnée. Donc ça fait déjà allusion à quoi ? À la destruction du Nord en 2 rois 17 et du Sud en 2 rois 24 et 25. Donc là, Josué fait déjà partie de cette bibliothèque deutéronomiste qui va jusqu'au livre des rois. Alors que dans Josué 24, nous avons une autre idée. Là, nous avons une autre idée. Nous avons l'idée, en fait, de créer ce qu'on peut appeler un hexateuque. Parce que nous avons quoi au début ? Nous avons une récapitulation de l'histoire. Josué va récapituler toute l'histoire depuis les patriarches jusqu'à la conquête. Il va conclure une alliance et on va raconter sa mort. Et surtout, ben vous allez le voir, Josué va devenir vraiment un nouveau Moïse, très très clairement. D'abord, il va raconter toute l'histoire qui est introduite ou qui est encadrée par l'idée que les pères étaient de l'autre côté du fleuve et qu'ils servaient d'autres dieux. Et après, on va dire, donc écartez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Donc ça veut dire, on rajoute en fait Égypte pour avoir les deux diasporas, hein, Babylone. L'autre côté du fleuve, c'est l'Euphrate, évidemment, c'est Babylone. Hein. Et donc, il faut écarter ces dieux. Et surtout, ce qui est intéressant, vous avez cette idée que les pères de l'autre côté avaient vénéré d'autres dieux. Dans l'histoire d'Abraham, dans la Genèse, vous n'avez pas du tout cette idée. On ne sait pas pourquoi Abraham doit quitter. Hein ? Dans les jubilés, oui, après on va vous expliquer. Donc soit ce texte connaît les jubilés, ou ce texte a inspiré l'auteur de jubilés de mettre en récit cette vénération d'autres dieux à Babylone. Donc, Josué va tout récapituler, d'Abraham jusqu'à l'entrée dans le pays. Et ce qui est intéressant aussi, dans la descente en Égypte, on ne va pas parler de Joseph, bien qu'après on va parler des ossements de Joseph. Et donc il faut choisir Yahvé ou les autres dieux. Là aussi, l'idée c'est qu'il y a un choix à faire avec aussi une sorte de reprise. Vous ne pouvez pas servir Yahvé. Tout à coup, le peuple dit « Oui, nous allons servir Yahvé ». Et Josué dit « Ah non, vous ne pouvez pas ». Ce n'est pas très logique et ça prépare évidemment aussi la suite, mais je pense à l'origine, en fait, le texte ne voulait pas tellement préparer la suite, il voulait plutôt conclure une Torah qui comporte encore le livre de Josué. Parce que tout à la fin, en effet, Josué, bah, comme Moïse va d'abord conclure une bérite, un traité, va fixer les lois et les coutumes au peuple, et surtout, et ça c'est important, Josué écrivait ses paroles dans le livre de la Torah de Dieu. Sefer Torat Elohim. Alors on a à côté la Torah de Moïse, et là maintenant on a la Torat Elohim. C'est quoi la différence ? Ben, la différence, c'est probablement dans la Torah Elohim, vous avez encore le livre de Josué, alors que la Torah Moshe, c'est que le Pentateuque. Et j'ai eu d'autres occasions de vous dire qu'il y avait en effet une sorte de débat, de conflit. Qu'est-ce que c'est la Torah ? Est-ce que la Torah inclut le livre de Josué ou non ? Ben, finalement, vous savez que ça n'a pas marché, cette histoire de hexateuque. Et si on avait un hexateuque, ça aurait changé quoi ? On ne peut dire pas grand-chose, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas eu. Donc c'est difficile à spéculer. Mais si vous lisez l'hexateuque, bah, en fait, tout va être centré sur le pays. C'est-à-dire que Le pays est promis au patriarche, il est conquis par la force à la fin en Josué, et donc ça conclut tout. Donc le centre, l'identité du peuple est liée au pays. Et si vous prenez une Torah qui se termine avec la mort de Moïse en Deutéronome 34, Moïse va le pays, mais il n'y entre pas, il meurt même à l'extérieur du pays. Ben, en fait, ça correspond plus à une situation de diaspora. Et donc, du coup, c'est aussi un peu ce débat. Est-ce qu'il faut être dans le pays ou est-ce qu'on peut vivre en diaspora? Et ça, c'est un grand sujet qui a accompagné le judaïsme tout au long de son histoire. Et les auteurs de Josué 24, ils auraient bien aimé que Josué fasse partie de l'Hexateuque. C'est pour cela aussi qu'ils vont terminer le texte avec les ossements de Joseph. Donc c'est un thème, au fait, qui ne trouve pas d'aboutissement à l'intérieur du Pentateuque. En Genèse 50, Joseph, avant de mourir, elle dit « Quand vous sortirez d'Égypte, vous amenez mes ossements. » Et en Exode 13, on dit « Oui, alors quand les Israélites sont partis d'Égypte, ils avaient amené les ossements. » Mais après, dans le Pentateuque, vous ne savez pas ce qui arrive à ces ossements. Donc il faut que vous attendiez Josué 24, où va vous dire que c'est là maintenant où ils enterrent les ossements de Joseph. Donc c'est clairement une stratégie rédactionnelle, narrative, pour dire Josué fait partie, en fait, du livre. Voilà. Et le lien avec Josué aussi est fait par le fait que Josué, comme Joseph, ils meurent tous les deux à 110 ans. C'est le seul qui meurt à 110, Moïse évidemment 120, et Joseph 110 comme Josué. Donc certainement on a construit Josué aussi un peu en allusion à l'histoire de Joseph. Voilà, donc on a quand même réussi à tout vous montrer. Et puis je voulais juste aussi rendre attentif que dans la Septante, il y a une finale qui n'est pas dans le texte massorétique, où va parler que les fils d'Israël prirent le coffre, c'est-à-dire l'arche de Dieu, le firent circuler et Pinhas devient prêtre. Et ensuite, les fils d'Israël vénèrent Astarté et Astaroth et Yahvé les livra, en fait, dans les mains d'Eglon de Moab. Donc ça, en fait, on a déjà une sorte de transition vers le livre de Juges, mais on y est déjà au chapitre 3 du livre de Juges, comme si on voulait passer directement au Juges sans, en fait, avoir l'introduction, ou l'introduction n'existait pas encore. Voilà, donc je termine. J'aurais voulu vous faire, mais il n'y a plus le temps. Donc, je vous ai dit au début de mon cours que le livre de Josué a eu beaucoup de réceptions. C'est un livre difficile parce qu'on peut le lire d'une manière très, très militariste, en légitimant des croisades, en légitimant toutes sortes de guerres, d'apartheid, etc. Mais on a pu aussi le lire comme un livre de libération. Et donc, j'avais voulu vous montrer, je voulais vous le faire écouter. Alors, c'est Joshua Fight the Battle of Jericho. Voilà, mais on ne va pas aller plus loin. On va faire une petite pause. Donc, merci de votre fidélité. On va voir maintenant un séminaire. On va voir la réception de Josué dans l'époque des Maccabées. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.